J'avais vu la dernière fois les martyrs du XXe siècle, et on avait commencé à voir les martyrs pendant l'époque nazie. D'abord, on avait vu en Allemagne, et puis ensuite en France. En France, de nombreux chrétiens aussi ont été persécutés, non pas tant en tant que chrétiens, mais parce qu'ils ont pris part à des activités de résistance, souvent, bon, parfois de résistance aussi directe, mais souvent, pour avoir caché des juifs ou justement des résistants ou des aviateurs abattus ou enfin bref, avoir secouru donc des gens qui n'auraient pas dû l'être selon les lois de l'Allemagne nazie. Il y avait un camp qui a été spécialement prévu et installé pour justement les ecclésiastiques, c'était le camp de Dachau. Et là donc il y a eu à peu près 300 ecclésiastiques qui ont été déportés. C'était un camp spécial pour le clergé. Parmi les personnalités qui ont été détenues au camp de Dachau, on note un des principaux représentants de ce qu'on appelait l'Église confessante en Allemagne, donc de l'époque, c'est-à-dire l'Église qui avait refusé de se rallier au nazisme, le pasteur Schneider. En Europe de l'Est aussi, de nombreux chrétiens ont été inquiétés pour avoir mis leur foi en pratique, disons, c'était plutôt dans ce domaine-là, c'était pas tant la foi en elle-même qui était attaquée, que la mise en pratique de la foi lorsqu'il s'agissait justement d'aider des gens qui étaient poursuivis justement par le régime nazi. Il y a eu aussi alors d'autres persécutions qui ont été beaucoup plus directes, qui n'ont pas été le fait directement des Allemands, mais de leurs alliés. C'est le cas par exemple dans les Balkans. Les Balkans, qui sont encore aujourd'hui une région particulièrement explosive, comme on le sait, ont connu pendant la Deuxième Guerre mondiale donc des soubresauts extrêmement violents, puisque finalement il y a trois types de populations dans les Balkans. D'une part, un élément serbe qui est orthodoxe au point de vue religieux, un élément croate qui est catholique, et puis un élément musulman. L'Allemagne nazie s'est appuyé dans les Balkans au moment de l'invasion de la Yougoslavie en 1941. La Yougoslavie donc avait été créée à partir de toutes ces différentes entités au lendemain de la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles, et elle avait donc un jeune roi à l'époque qui régnait sur le pays et qui donc a été l'objet d'une attaque, comment on appelle ça, attaque surprise, guerre éclair de Hitler, donc en printemps 1941. Et donc le roi est parti en exil et le pays a donc été démembré, comme aujourd'hui. Et alors ce démembrement a été appuyé à la fois par l'Allemagne et par le Vatican, notamment en s'appuyant sur l'élément catholique, c'est-à-dire essentiellement l'élément croate. Et il y avait un sinistre personnage qui est devenu un supplétif des Allemands, le Pétain de la Yougoslavie, qui s'appelait Ante Pavelic, qui était un homme d'une cruauté absolument sans borne, et qui donc a persécuté les chrétiens orthodoxes en tant que chrétiens orthodoxes. Il s'agissait pour eux, donc les Serbes essentiellement, il s'agissait pour ce qu'on appelait les Ustaschi, qui étaient les milices paramilitaires d'Ante Pavelic. Il s'agissait d'amener les orthodoxes à se convertir de force au catholicisme. Et là, donc, des massacres absolument abominables ont eu lieu. Des milliers d'orthodoxes ont été froidement massacrés, des villages entiers ont été rasés, etc., pour essayer de contraindre les Serbes à rejoindre le catholicisme. Il y a eu une véritable purification ethnique du côté serbe, ça on l'oublie aussi, d'ailleurs le terme purification ethnique a été repris au moment des événements que l'on sait de la fin du siècle dernier, et retourné contre ceux qui en avaient été les victimes, ce qui est une pratique courante des musulmans, comme ils le font maintenant par exemple avec le génocide. Maintenant, ce n'est plus les Juifs sont victimes du génocide, mais ce sont les Palestiniens qui sont victimes d'un génocide israélien. Donc, c'est le retournement du terme, exactement comme ça s'est produit en Serbie. C'est toujours la même manière de faire. Parmi les orthodoxes qui ont été massacrés, donc pendant cette période dramatique, il y a eu plus de 300 prêtres orthodoxes. Il faut dire aussi que parfois, bon, les orthodoxes aussi ont rendu un peu la monnaie de leur pièce à leurs persécuteurs et qu'il y a eu aussi des prêtres catholiques qui ont été massacrés cette fois-ci par des Serbes orthodoxes. Il y avait aussi donc des communistes yougoslaves. Quand le communisme est arrivé au pouvoir sous la direction du croate Josef Broz, qui se faisait appeler Tito, les communistes s'en sont pris aux croyants, en tant que croyants, comme ils le faisaient partout, finalement. Hein. Et donc, les derniers mois de la guerre ont vu des massacres aussi bien de catholiques que d'orthodoxes, ou même de musulmans, d'ailleurs, de la part, justement, des communistes de Tito. Plus tard, les partisans communistes ont ensuite se sont un peu calmés. Quand Tito a été au pouvoir, il a essayé de créer un certain modus vivendi. Et dans les dernières années du régime titiste, qui a pris d'ailleurs des distances vis-à-vis de Moscou, n'est-ce pas, pour des raisons qui faisait que Tito voulait son indépendance, il ne voulait pas s'aligner sur les autres pays satellites. C'est bien qu'il y a eu une espèce de divergence de vue. Tito a été accusé par les dirigeants de l'Union soviétique de révisionnisme, ce qui était évidemment, dans le vocabulaire marxiste, une des injures les pires que l'on pouvait adresser à quelqu'un. Mais il a tenu ferme, n'est-ce pas? Et pour cela, il a dû quand même quelque peu libéraliser son régime. Si bien que dans les dernières années du titisme, la Yougoslavie était un des pays les plus libéraux sur le plan religieux en ce qui concerne les pays communistes. On ne peut pas dire que la liberté y était totale, mais enfin, si on la compare avec ce qu'il y avait, par exemple, dans d'autres pays tels la Russie ou bien même la Tchécoslovaquie voisine, la liberté des chrétiens était infiniment plus grande en Yougoslavie qu'elle ne l'était ailleurs. Bien sûr, tout ça s'est dégradé, comme on le sait, après les événements dramatiques qui ont marqué la fin du siècle. La Tchécoslovaquie aussi a été avant la Deuxième Guerre mondiale, le pays de l'Est le plus déchristianisé. Et c'est donc le pays où le communisme, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1948, a fait sentir son joug avec le plus de rigueur. Bon, la Hongrie aussi a connu alors des moments extrêmement difficiles, notamment après la fameuse révolution avortée d'octobre-novembre 1956. En effet, à cette période-là, n'est-ce pas, des éléments, libéraux ont essayé d'amener une démocratisation du régime hongrois. Et ça a dégénéré en une véritable révolution qui a éclaté donc fin octobre 1956, au cours de laquelle donc le régime a été épuré de tous les éléments staliniens, si l'on veut, c'est pas, notamment la police secrète, toutes les institutions qui tenaient le pays, comme dans tous les autres pays communistes, sous un joug de fer, ont été éliminées par la force. On pensait, c'est pas, que le régime allait vraiment pouvoir se libéraliser. C'était un petit peu déjà le rêve d'un socialisme à visage humain. Et parmi ceux qui ont milité pour cette démocratisation, on trouvait le cardinal Myszynski, qui était donc le primat de Pologne, de Hongrie. Le pouvoir soviétique, qui était donc en principe le pouvoir qui chapeautait tous les pays satellites, a paru d'abord chanceler, reculer et finalement accorder à la Hongrie une certaine autonomie au sein du bloc de l'Est. Et puis, ensuite, ils se sont repris et des divisions blindées ont été envoyées pour envahir la Hongrie et les chars russes ont noyé dans le sang l'insurrection hongroise. Parmi les victimes, évidemment, il y a eu de nombreux chrétiens catholiques. La Hongrie était essentiellement catholique. Et nombreux étaient les chrétiens qui avaient pris part à l'insurrection et qui ont été donc épurés. Le pouvoir soviétique a emmené dans ses bagages un nouveau dirigeant qui d'ailleurs s'était joint à lui, Janos Kadar, et qui a été mis sur le trône, si j'ose dire, pour épurer le pays de tous les éléments douteux, et notamment justement des chrétiens. Le cardinal Myszynski a réussi à se réfugier, comme un certain nombre de personnalités, à l'ambassade américaine, et où il est resté dans une espèce de... comment dirais-je, de réclusion forcée, puisque dès qu'il sortait, évidemment, s'il était sorti de l'ambassade, de l'enceinte de l'ambassade américaine, il aurait été immédiatement arrêté. Et finalement, il est resté là jusqu'en 1971, où le régime s'était un petit peu libéralisé à cette période-là, et donc le pouvoir a accepté de donner au cardinal un sauf-conduit pour les États-Unis. Il y a eu, à cette époque-là, aussi une suppression des congrégations religieuses dans le pays, et puis une privatisation encore plus grande de l'Église. Il y a eu ensuite l'Albanie. L'Albanie, alors, a été un petit pays, donc qui, lui, alors, s'est complètement coupé du reste du monde, qui a prétendu instaurer donc le premier État véritablement communiste du monde. Et alors que la Yougoslavie voisine avait pris ses distances par rapport à Moscou, mais en se rapprochant plutôt, si vous voulez, des démocraties occidentales, il y avait pas vraiment une démocratie, la Yougoslavie n'était pas une démocratie, mais enfin, était un peu plus libérale que le reste. Et la Yougoslavie se voulait un des leaders de ce qu'on appelait les pays non alignés, c'est-à-dire les pays qui ne se reconnaissaient ni dans le camp occidental, ni dans le camp de l'Est. Par contre, l'Albanie trouvait au contraire que le régime de Moscou était trop libéral, ce qui est assez cocasse. Et l'Albanie s'est alignée en fin de compte sur Mao Tse-Tung au moment de la fameuse révolution culturelle de 1966-1968. Et l'Albanie s'est vantée pendant toutes ces années-là, où il était un véritable camp retranché. Il était impossible d'y pénétrer, sinon au péril de sa vie, et s'est vanté d'être le premier État athée du monde. Toute forme de foi y était sévèrement pourchassée, et tous ceux qui professaient ou qui étaient pris à professer une foi quelconque étaient au moins emprisonnés, au pire donc éliminés par la force, exécutés. Il y a eu un niveau de répression sans précédent. Nulle part ailleurs, donc, on a eu une persécution aussi importante que dans l'Albanie de ces années-là, jusqu'à la mort du fameux tyran, n'est-ce pas, Enver Hoxha, qui, avait mis en place ce régime absolument tyrannique et absolument inhumain. Son but était de créer un véritable homme nouveau, une religion nouvelle, il n'avait pas peur des mots, n'est-ce pas. Et c'est en 1967, au moment de la révolution culturelle, que le régime s'est encore durci jusqu'au moment où le rideau de fer s'écroulant dans les pays de l'Est, il s'est aussi écroulé donc en Albanie. L'Albanie qui, malgré des décennies plus exactement de régime communiste athée, a retrouvé assez rapidement une dimension religieuse puisque l'essentiel de sa population était d'origine musulmane. Autre contexte plus exactement, où des nouveaux martyrs ont sacrifié leur vie pendant le siècle qui vient de s'écouler, c'est le champ missionnaire. Le champ missionnaire, que nous avons examiné longuement, a été le théâtre de très nombreux martyrs, bien évidemment. Depuis les origines, pratiquement jusqu'au bout et jusqu'à nos jours, on peut dire, il continue à y avoir ça et là, justement, des gens qui, plus qu'ailleurs, peut-être meurent pour leur foi. Une des raisons de cette recrudescence de la persécution dans les pays de mission, ça a été l'exportation de la guerre froide dans le tiers-monde pendant la deuxième moitié donc du XXe siècle. Et très vite, dans les pays du tiers-monde qui ont été touchés peu ou prou par le marxisme, le christianisme est apparu comme l'expression du camp adverse, c'est-à-dire du camp occidental, du camp pro-américain. Et cela donc a provoqué une révolte contre non seulement le blanc, mais également contre le christianisme. Et c'est évident que la guerre froide a été une très très mauvaise affaire pour la mission pendant toute cette période-là. Avant de parler de la guerre froide, il nous faut évoquer très brièvement ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire la révolte des boxers au début du siècle en 1905, en Chine, au cours de laquelle 190 pasteurs ont été mis à mort avec leurs familles, sans parler de 30 000 fidèles chinois, surtout catholiques d'ailleurs, jusqu'au moment où, après cette répression absolument horrible, n'est-ce pas, la persécution a cessé. Les boxers reprochaient au christianisme, finalement, déjà avant l'arrivée du communisme, d'être la religion de l'Occident. Et par conséquent, ils estimaient, et c'est toujours ce que pense le régime chinois actuel, le christianisme était une réalité étrangère à la culture et à la civilisation chinoise, qui était très jalouse, n'est-ce pas, de sa grandeur et qui pensait que c'était elle qui devait être exportée dans le reste du monde et non pas l'inverse. Il en a été de même au Japon. Le Japon, quand il a commencé à s'ouvrir au début du siècle, a regardé avec beaucoup de suspicion le christianisme. Et puis, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'il y a eu une certaine libéralisation. Bien entendu, la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle le Japon a été ennemi des États-Unis, a amené aussi donc un durcissement vis-à-vis de la religion des Blancs, c'est toujours le même problème. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, bien que le Japon se soit ouvert, le christianisme a peu de prise au Japon dans la mesure où il continue à être considéré comme la religion des Blancs. En 1941, les missionnaires qui se trouvaient au Japon ont été massacrés, de même en Chine, n'est-ce pas ? Et puis alors il faudrait aussi parler évidemment de la Corée. La Corée en 1901 déjà, qui a connu ensuite les contre-coups des troubles des boxers. Et puis ensuite, évidemment, au moment de l'arrivée du communisme, aussi bien en Chine que en Corée, la persécution n'a pas cessé. Encore aujourd'hui, évidemment, des frères sont mis à mort ou sont emprisonnés pour leur foi dans ces deux pays, et notamment la Corée du Nord, qui est un des pays, comme on le sait, les pires qui soient, comme l'a dit le président Bush, un des États voyous de la planète, dont d'ailleurs il a l'intention de s'occuper, je pense, après l'Irak. Et là aussi, bien entendu, toute forme de christianisme est sévèrement interdite, même si il y a quand même une présence chrétienne secrète et clandestine au milieu de ce pays. En Afrique, le martyrologue est énorme pendant le XXe siècle, pour les mêmes raisons que nous avons vues. Et d'abord aussi, du temps du colonialisme, les autorités coloniales, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas toujours été très favorables aux missionnaires. La raison était souvent qu'ils craignaient que l'activité des missionnaires ne trouble la paix religieuse des États dont ils avaient l'administration. Et c'était le cas surtout en terre d'islam. Là où l'islam était prépondérant, on évitait justement de trop laisser la bride sur le coup aux missionnaires pour ne pas indisposer la majorité musulmane. Maintenant, il y avait une autre crainte aussi des pouvoirs colonialistes, c'était que le christianisme n'élève le niveau de vie des populations indigènes et que ça les rende ainsi plus difficiles à gouverner. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue. Et souvent, d'ailleurs, dans la crainte que les autorités ont du christianisme, notamment du christianisme peut-être évangélique, c'est souvent justement cette même crainte aussi qui joue. Alors, sur le plan des différents pays, on note une première vague de persécution en 1936 en Éthiopie. En 1936, l'Italie fasciste de Mussolini donc s'est emparée de l'Éthiopie. Et là, le pouvoir, qui était finalement catholique, évidemment, c'est pas très très glorieux pour le Vatican de dire que Mussolini était un pouvoir catholique, mais quand même pas oublier que c'est Mussolini qui a reconnu l'indépendance du Vatican, qui a donné au Vatican donc tous les privilèges dont il jouit jusqu'à aujourd'hui au cœur de l'Italie, y compris des sommes financières absolument considérables. Et le fascisme italien a favorisé l'expansion du catholicisme partout où il s'est implanté. C'était le cas en Libye, mais là, il a eu peu de chance parce que l'essentiel de la population était musulmane et musulmane fanatique, mais surtout en Éthiopie, qui était une population chrétienne, donc éthiopienne, issue de l'église copte d'Égypte, et en même temps aussi, où il y avait eu un certain nombre de missionnaires protestants. L'église l'église locale, l'église éthiopienne, n'a pas été directement inquiétée parce qu'elle était l'église majoritaire et l'église nationale, il a bien fallu la respecter, mais les protestants, les missions protestantes ont énormément souffert du temps justement de la domination fasciste italienne. Cette domination a pris fin et l'Éthiopie a été le premier pays libéré, n'est-ce pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il l'a été notamment par Ordwin Gate, qui avait fait le serment, n'est-ce pas, qu'il libérait l'Éthiopie, les chrétiens, n'est-ce pas, lui-même était chrétien et il avait cette vision, n'est-ce pas, il voulait, avant de libérer le peuple d'Israël et le ramener dans son pays, il voulait libérer donc l'Éthiopie et il a tenu parole, il a été donc celui qui a ramené le Négus sur le trône d'Addis Abeba. Il y a eu aussi, bien sûr, des problèmes énormes en Chine avec l'avènement du communisme et notamment avec déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, les communistes dans les régions du pays qu'ils contrôlaient ont terriblement persécuté les chrétiens et finalement la grande marche, la fameuse grande marche et ensuite le grand bond en avant ont été marqués chaque fois par des vagues de persécution absolument sans précédent. Des tortures absolument inimaginables comme seuls les Asiatiques sont capables d'en inventer. Finalement, un certain modus vivendi avait été accepté, mais ceux qui ont été finalement le plus persécutés dans les dernières années du régime de Mao, c'était les catholiques. Les catholiques, parce que les catholiques étaient une église qui n'était pas une église nationale, mais internationale, et était en relation avec le Vatican. Et le pouvoir de Pékin avait mis comme condition pour tolérer, mais au sens vraiment très restrictif du terme, les catholiques, qu'ils rompent avec Rome, ce qui évidemment, pour un catholique, était impossible. C'est ainsi que tous les évêques qui ne voulaient pas rompre avec Rome étaient déposés manu militari par le pouvoir et remplacés par des évêques qui faisaient allégeance, qui juraient donc fidélité à Mao Tse-Tung. On peut imaginer évidemment quel genre d'évêque il s'agissait. Par conséquent, s'est créée une église catholique parallèle, n'est-ce pas, pendant toutes ces années-là. À l'heure qu'il est, n'est-ce pas, le problème est loin d'être résolu et finalement les autorités chinoises sont bien obligées de, ferment les yeux sur le fait que finalement, c'est Rome qui choisit les évêques en dernier ressort et puis le pouvoir finit par donner son accord parce que finalement il n'a pas tellement le choix. Mais enfin le conflit reste néanmoins latent. Et puis aussi il y a eu donc des différentes vagues de persécution. Ça dépend des moments, ça dépend des régions aussi. Ça dépend souvent des autorités locales. Certaines sont plus tolérantes que d'autres. Enfin, c'est très, très variable, n'est-ce pas ? C'est très, très variable. L'Inde aussi est un pays qui est faussement libéral. En principe, c'est une démocratie dans laquelle la liberté de culte est totale. Et notamment, l'Inde a de très, très nombreuses religions, sectes, etc., et pendant un temps, pour les jeunes hippies, dans les années 70, l'Inde était une espèce de paradis sur terre. On allait en Inde, dans les ashrams, etc., pour se tremper dans la spiritualité de l'Inde, parce que justement, c'était l'image du libéralisme même. En fait, depuis une bonne dizaine d'années surtout, on assiste en Inde à une montée très forte du sentiment anti-chrétien, c'est quelque chose qui n'est pas sans inquiéter, qui a conduit même à des drames. Bon, il y a d'abord évidemment le fait que la majorité hindouiste du pays est en conflit aigu avec l'islam, un islam aussi extrêmement dur, et de ce fait, l'hindouisme se durcit. Il se durcit contre l'islam, mais il se durcit aussi contre le christianisme. Il se durcit finalement un petit peu pour la même raison qu'en Chine, parce que on considère le christianisme comme une importation occidentale étrangère à la culture locale. Il y a des mouvements assez extrémistes C'est pas tellement, si vous voulez, le gouvernement lui-même qui cautionne ces gens, encore que l'actuel chef de l'État est un hindouiste assez dur, mais il s'agit plutôt de groupes assez extrémistes qui prennent des initiatives, par exemple d'attaquer des églises, notamment. La période de Noël est un moment toujours très redouté par les chrétiens locaux parce que c'est l'occasion justement d'attaques d'églises ou de choses semblables. Le monde entier, enfin le monde chrétien du moins évangélique, a été bouleversé en janvier 99 par la mort de Graham Staines, n'est-ce pas, qui était âgé de 58 ans, et de ses deux fils de 8 et 6 ans qui ont été brûlés vifs dans leur voiture. Vous avez certainement entendu parler de cette malheureuse affaire. Maintenant, il y a aussi ce durcissement de certains nombre d'éléments de l'Inde. Le fait que il y a aussi ces mouvements sont en général en relation avec des mafias. Là aussi, l'expansion des mafias dans le monde entier est une plaie dont beaucoup de chrétiens aussi ont à souffrir. On en reparlera tout à l'heure. Outre la mafia sicilienne qui s'est exportée aux États-Unis entre les deux guerres mondiales, si vous voulez, c'est l'époque glorieuse d'Al Capone, de la prohibition et tout ça. Jusqu'à nos jours. On a maintenant affaire à des mafias russes, à des mafias sud-américaines, etc. Tant et si bien que souvent, ces mafias sont en relation justement avec des groupes extrémistes qui ont besoin d'argent pour s'armer ou pour faire leurs activités clandestines. Par conséquent, obtenir de l'argent à bon compte, donc automatiquement utiliser des méthodes de mafiosie et donc automatiquement s'associer avec elles. Maintenant, il y a une autre raison aussi qui conduit l'Inde à se durcir avec les chrétiens, c'est que l'Inde, vous savez, est divisée en un certain nombre de castes. Et notamment, une grande partie de la population est classée dans la caste des intouchables, des gens qui n'ont pratiquement aucun droit et qui sont donc dans une misère absolument terrible. Il est bien évident que les missionnaires font de ces intouchables, et notamment les missionnaires protestants, l'objet principal de leur préoccupation. D'ailleurs, pour des raisons évidentes, ce sont ceux qui sont les plus ouverts à l'Évangile, évidemment. Et alors, justement, lorsque les intouchables se sont convertis à l'Évangile, ils rejettent le système des castes parce qu'ils se rendent compte dans l'Évangile, évidemment, que ce n'est pas normal, que tous les hommes sont égaux. Et cela, évidemment, remet en cause le statu quo de la société hindoue et cela provoque aussi des troubles. Bon, on a évoqué aussi les victimes de Timor, de la répression musulmane qui a balayé donc l'île et qui a amené la mort d'un tiers de la population, soit 200 000 personnes, 200 000 chrétiens. L'Égypte copte est aussi un endroit où il y a de nombreuses persécutions. C'était amusant. J'entendais dire dernièrement par des touristes qui reviennent d'Égypte, n'est-ce pas? Ils ont fait une croisière sur le Nil où ils ont tout vu, tout compris, bien entendu, en 5 jours. Je crois qu'ils avaient fait 5 jours, c'est ça, Pierre-Louis, je crois. Ouais. Ils n'ont vu aucune persécution des chrétiens là-bas et que les chrétiens sont dans la liberté la plus totale. Bon, évidemment, ils sont tellement en liberté que, en son temps déjà, ça date pourtant l'homme le plus libéral a fait emprisonner ce qu'on appelle le pape des Coptes. Il s'appelle le pape, ça n'a rien à voir avec le pape catholique, mais enfin bon, chez nous il y a trois, n'est-ce pas, a été emprisonné par Sadat lui-même. Et depuis 1993, alors les frères musulmans et des éléments justement musulmans plus ou moins incontrôlés, n'est-ce pas? D'ailleurs, plus ou moins contrôlés, il faut le dire vite, parce que le pouvoir ferme les yeux et intervient toujours au dernier moment. Alors, depuis l'automne 1993, des attaques contre de nombreux villages coptes ont eu lieu, contre des monastères, et on note depuis cette période-là plus de 200 000 chrétiens qui ont été assassinés. Sans parler de ceux qui sont inquiétés, les femmes ou filles qui sont contraintes à se marier avec des musulmans, donc qui sont contraintes de se convertir de force, etc. Donc la situation de l'Égypte, des chrétiens d'Égypte, est extrêmement préoccupante. Parmi nouveau martyr, il faut aussi évoquer, même si on est obligé de le faire un peu du bout des lèvres, les martyrs du Mexique et de l'Espagne jusqu'à l'avènement de Franco. Au Mexique, d'abord, il y a eu, depuis l'indépendance du Mexique, différentes périodes où l'anticléricalisme a été très fort. Il faut dire que dans ces pays hispanophones, tels que l'Espagne elle-même, le catholicisme a eu un tel pouvoir, une telle puissance depuis donc l'Inquisition, etc., que il a fini par être haï par une grande partie de la population, qui a vu, avec juste raison, dans les pouvoirs catholiques, un pouvoir totalitaire, oppresseur, alliés de tous les puissants du jour, n'est-ce pas, qui ne se préoccupaient en rien justement des plus démunis. Si bien que les idéologies marxistes ont eu beaucoup de succès dans les pays hispanophones, y compris l'Espagne elle-même d'ailleurs. Et, au Mexique donc, peu de temps après l'indépendance du pays, entre 1874 et 1914, est arrivé au pouvoir un parti politique anticlérical. Et il y a eu une persécution religieuse pendant 30 ans. Alors évidemment, on pourra dire cette persécution antireligieuse qui était dirigée essentiellement contre les catholiques et contre les prêtres, était en grande partie justifié, si l'on prend en compte justement ce qu'on avait dit tout à l'heure, la manière dont, odieuse dont l'Église catholique s'était comportée dans ces pays-là. Néanmoins, ce n'est pas parce que justement les autorités de l'Église catholique ont été odieuses que l'on peut à justifier et admettre le fait que des croyants innocents qui n'avaient d'autre but que de vivre leur foi catholique aient été comme ça impitoyablement mis à mort. Des prêtres qui parfois aussi étaient des gens qui, au contraire, le prêtre de base étaient des gens parfois qui étaient bien conscients des problèmes et qui essayaient d'y remédier et qui ont été pris dans la tourmente parce qu'ils appartenaient à un système qui était oppressif sans qu'eux-mêmes ne soient intéressés. Alors, peut-on considérer ces gens-là comme des martyrs de leur foi jusqu'à un certain point? Oui. On cite le cas de nombreux prêtres qui ont été fusillés après avoir béni leur bourreau, leur avoir pardonné, etc., etc., qui sont morts véritablement chrétiennement. Je crois que ces gens-là sont finalement morts pour leur foi, oui, parce qu'ils ont voulu rester fidèles au Seigneur, finalement, même si ceux qui les ont tués ne les ont pas tués parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils appartenaient à un système qu'ils haïssaient et qu'ils honnissaient. Bon. Alors, ça a été le cas jusqu'en 1914, où les choses ont changé. En 1926, une nouvelle révolution a eu lieu au Mexique, une révolte paysanne qui s'est faite au contraire de Cristo Rey, Christ est roi, et qui a été donc une révolte essentiellement catholique. C'est très intéressant de noter que là, c'était essentiellement des gens... du petit peuple, en quelque sorte, qui, au nom du Christ, en quelque sorte, ont amené cette révolution. Bon, depuis cette époque-là, la situation au Mexique est toujours restée extrêmement ambiguë, parce qu'il est resté dans le pays un fort courant anticlérical et antichrétien, disons. Et même si le pays s'est démocratisé et libéralisé, notamment les missionnaires protestants sont vus d'un très mauvais œil, le protestantisme, de temps en temps, et dans certaines régions aussi. Ça dépend beaucoup des conditions locales, notamment dans les montagnes où on a affaire à un clergé catholique ou des autorités politiques assez primitives, disons, primaires. Il peut y avoir des explosions de violence dont les chrétiens peuvent être victimes jusqu'à aujourd'hui. Et, l'organisation Porte Ouverte, par exemple, s'intéresse à ces cas-là et souvent donc aussi rapporte les souffrances dont ils sont l'objet, tant de la part des autorités que justement des autorités catholiques, elles aussi, qui sont les deux, finalement, les deux composantes essentielles du pays. Il faut dire que le Mexique est, de tous les pays d'Amérique latine, le plus incertain pour les chrétiens évangéliques, disons. Dans la plupart des autres pays, mis à part les pays tels que la Colombie, la Bolivie, n'est-ce pas, les par exemple, les pays tels que Brésil, Mexique, Brésil, Chili ou même Argentine, n'est-ce pas? La liberté religieuse est infiniment plus grande qu'au Mexique. Le Mexique est toujours cet arrière-plan anticlérical. L'Espagne est un cas aussi particulier au début de ce siècle. L'Espagne, qui s'était voulue depuis les rois catholiques comme étant le rempart du catholicisme en Europe, et au nom de cette vocation qu'il croyait lui avoir été investie par Dieu lui-même, l'Espagne a refusé donc la modernité au 18e et début du 19e siècle. C'est ce qui explique, par exemple, la révolte des guérilleros, le terme de guérilla né à ce moment-là, la petite guerre, contre Napoléon en 1912. La révolte des Espagnols contre les Français révolutionnaires, les Français de Napoléon, était menée par les prêtres. C'était au nom de la religion qu'on se révoltait contre les athées français, les athées, les révolutionnaires français. Et après avoir donc chassé les Français d'Espagne, l'Espagne s'est retirée derrière les Pyrénées, sans contact avec l'Europe, pour justement garder pur et dur son catholicisme. Ça n'a pas toujours été possible, malgré tout, n'est-ce pas? Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en particulier, les idées nouvelles ont fini malgré tout par pénétrer en Espagne, notamment sous le règne de la reine Isabelle II, qui était une personne évidemment assez faible, et ce qu'on appelait la Première République. Si bien qu'à partir de cette période-là, l'Espagne aussi a pris conscience du fait qu'il y avait une autre voie possible que celle de cette mainmise de l'Église catholique qui maintenait l'Espagne dans un état d'arriération extrêmement important, même par rapport aux critères du 19e siècle, la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Et un certain nombre d'intellectuels ou même d'autres, n'est-ce pas, se sont mis à aspirer à une voie beaucoup plus libérale. Lorsque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le communisme s'est installé en Russie, alors beaucoup d'Espagnols se sont mis à regarder de ce côté-là. Beaucoup de paysans, d'ouvriers, n'est-ce pas, se sont mis à regarder vers la Russie et vers le marxisme comme l'espoir, n'est-ce pas, pour sortir de l'état de misère absolument inimaginable que l'Espagne connaissait à cette période-là. D'autant plus, comment dirais-je, scandaleuse que l'Église catholique, les institutions religieuses, les couvents, les monastères, etc., avaient une richesse foncière absolument considérable, alors que le reste du peuple, le petit peuple, mourait de faim. Et alors s'est créée au XXe siècle en Espagne une situation typique justement des situations pré-révolutionnaires, c'est-à-dire un fossé entre deux classes, la classe favorisée, qui était une minorité, qui comprenait bien entendu les élites politico-culturelles et l'Église, c'est-à-dire essentiellement les prélats, et puis le petit peuple. Donc, disparition d'une classe moyenne. Il n'y avait pas véritablement de classe moyenne en Espagne. Et c'est dans ce contexte-là que, donc, à la fin des années 20, la monarchie, donc une révolution a eu lieu. Bon, il y avait déjà eu un pronunciamiento, comme on appelle en espagnol, c'est-à-dire une révolution menée par l'armée. Le général Primo de Rivera avait pris le pouvoir, puis il avait donc repassé le pouvoir aux civils, etc. Bon, il y avait eu différentes vicissitudes. Et finalement, à la fin des années 20, a été créée la Deuxième République. Le roi Alphonse XIII a été envoyé en exil, c'est d'ailleurs l'ancêtre de l'actuel roi Juan Carlos, et l'Espagne est devenue une république. Une république, bon, finalement, qui est aussi reconnaissée, était calquée sur le modèle des démocraties occidentales, et le modèle était évidemment la France voisine. Donc, en principe, liberté religieuse, ce qui n'était pas du tout du goût, évidemment, de l'Église catholique. C'était l'époque où il a été possible pour, justement, les missions protestantes d'intervenir en Espagne, notamment des missions françaises. La mission du Haut-Aragon, par exemple, avec le pasteur Cadier, ou des missions suisses aussi qui se sont beaucoup intéressées à l'évangélisation de l'Espagne, considérant que plutôt que d'envoyer des missionnaires au fin fond de l'Afrique, on avait un champ missionnaire à sa portée que l'on négligeait complètement. Des missions anglaises aussi, évidemment, on travaillait là-bas. Alors exactement, il fallait travailler là-bas comme en plein pays d'Afrique, quoi. C'était à peu près le même niveau. Il fallait installer des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, apprendre aux femmes à s'occuper des enfants, les principes élémentaires de la puériculture. C'était le tiers-monde. Hein. L'Espagne des années 20-30, c'était ça. C'était ça. Donc là, les missionnaires ont fait un travail absolument considérable, comme ils auraient fait donc en Afrique ou ailleurs. C'est exactement la même chose. Et puis alors, évidemment, les événements politiques se sont dégradés, dans ce sens que, comme la République était en quelque sorte à mi-chemin entre un régime conservateur tel que l'Espagne l'avait connu jusqu'alors, et puis un régime libéral. Finalement, la République n'avait pas vraiment touché aux privilèges des puissants. Il y a eu alors une radicalisation du pays, notamment une ouverture très forte à l'antichristianisme et à l'anticléricalisme, où justement les ouvriers et les petites gens, d'une manière générale, ont vu dans l'Église catholique la cause de tout leur malheur. Il y a eu à cette époque-là, donc, déjà, une privatisation, évidemment, du religieux. Le concordat avec l'Église catholique a été dénoncé au grand dam, évidemment, de l'Église catholique et de ceux qui en étaient proches. Et le but était de faire en sorte que l'Église n'ait plus d'impact sur la vie sociale et collective du pays. C'était ce que souhaitaient notamment les élites bourgeoises et libérales qui avaient pris le pouvoir avec cette deuxième République espagnole. L'anticléricalisme populaire a alors connu s'est répandu comme une véritable traînée de poudre en Espagne, où on a assisté à une déchristianisation du peuple extrêmement forcenée. La Deuxième République est devenue rapidement anti-religieuse. Et cela, elle s'est tournée vers le marxisme. Et alors, des coalitions, des cartels des gauches, des Frente Popular, le Front Populaire à l'image du Front Populaire français, c'est pas, se sont créés en Espagne, avec des partis extrémistes, marxistes extrémistes, c'est-à-dire trotskistes, anarchistes, bref, enfin, tout ce qu'il y avait encore plus extrémiste qu'il ne l'était, par exemple, en Russie, presque, si vous voulez. Si l'Espagne avait basculé dans ce régime-là, c'était l'Albanie, quoi, en quelque sorte. C'était l'Albanie d'Enverroja qui s'installait là-bas. Et alors, des émeutes ont commencé à avoir. Un état insurrectionnel a eu lieu. Ça a été d'abord la révolte des ouvriers dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies, les grandes usines d'Oviedo, etc., qui ont été réprimées par l'armée qui était à droite, évidemment, catholique, et notamment un jeune général a été celui qui a été à la tête de la répression de la révolte des Asturies, c'était Francisco Franco, ça. Et puis, la révolte était latente, quoi. Et finalement, en 1936, les élections de 1936 ont amené le Front Populaire, composé justement de ces éléments les plus extrémistes, au pouvoir. Donc c'est un régime marxiste dur qui s'est installé en Espagne. Et immédiatement, donc, une politique antireligieuse terrible a été menée par le nouveau pouvoir. Profanation de tout symbole sacré, et notamment aussi des prêtres. Le but avoué, justement, de la Frente Popular était de tuer Dieu s'il existe, c'était ce qu'il disait, pour fonder un ordre nouveau. Donc on était à fond dans la vision marxiste, et tout ce qui avait une connotation religieuse était immédiatement suspect. Les choses se sont dégradées à fond là, pendant la fin de 1936 en particulier. Et là, donc, des massacres ont commencé. Les prêtres, des religieuses ont été massacrés. Tout simplement parce qu'ils étaient des prêtres et éventuellement des fidèles aussi. Alors là, c'est pareil, c'est comme au Mexique, on disait, peut-on considérer ces gens-là comme des martyrs? Certains n'ont pas volé ce qui leur arrivait, c'est certain. D'autres, c'est plus discutable. D'autres étaient des gens qui ont subi dans lesquelles ils avaient finalement peu trempé, n'est-ce pas? Mais bon, c'était cette rage, cette haine, n'est-ce pas, longtemps contenue du peuple espagnol contre une église oppressive qui se manifestait par ce moyen-là. Et alors donc, les hosties étaient profanées, c'était vraiment... Jamais les rois catholiques n'auraient pu imaginer que l'Espagne tombe aussi bas dans ce domaine-là. Et donc l'idée était qu'en Espagne, on pouvait faire mieux qu'en URSS. C'était le but. Tout ce qui était religieux était véritablement suspect et poursuivi. C'était une opération de nettoyage anti-religieux qui était donc menée. Alors évidemment, ça ne pouvait pas ne pas amener une réaction de l'autre côté. Car si une grande partie du peuple espagnol était devenue anti-religieux, l'Église catholique était quand même encore puissante en Espagne. D'abord, il y avait tout l'immense clergé qui était encore très puissant. La haute bourgeoisie... une grande partie de la bourgeoisie des villes était quand même conservatrice, disons. Et puis l'armée, c'était surtout le problème. L'armée était le bastion du catholicisme. Et alors, au bout d'un temps, évidemment, lorsque les choses sont allées trop loin, finalement, il y a eu une radicalisation des deux côtés, quoi, hein. La République s'est radicalisée à l'extrême gauche. Et évidemment, ça a provoqué une réaction de l'extrême droite. L'extrême droite qui était représentée par ce qu'on appelait les partis phalangistes. Je ne sais plus quel était le nom du général qui en a pris la tête d'ailleurs, qui a été tué dans un accident d'avion. Général Francisco Franco, qui était gouverneur militaire des Canaries. Un avion spécial a été dépêché là-bas pour le ramener d'urgence au Maroc, où il a pris la direction des troupes qui étaient donc au Maroc espagnol et qui ont traversé le détroit de Gibraltar pour envahir l'Espagne. La guerre civile, l'horrible guerre civile qui a ensanglanté l'Espagne pendant 3 ans, était commencée, qui a fait 1 million de morts, hein, dans des conditions épouvantables. Et donc, cette guerre civile a été donc menée avec le même acharnement et la même cruauté d'un côté et d'autre. Autant la République s'était radicalisée à gauche, autant donc les phalangistes avec Franco se sont radicalisés à l'extrême droite, donc s'alignant à fond sur Hitler et Mussolini, qui ont envoyé des troupes, vous savez, pour aider donc les troupes franquistes. Et donc c'était l'intolérance totale, l'incompréhension totale des deux côtés. Il y avait plus du tout, c'était la radicalisation totale. Et on était aussi cruel, évidemment, d'un côté que de l'autre. Les rouges, comme on les appelait, fusillaient les chrétiens, les curés, les bonnes sœurs, et tandis que les franquistes fusillaient aussi, avec la même rage, tous les rouges qui tombaient sous leurs mains, ou ceux qui étaient prétendus rouges, là aussi. Donc, bon, il y a eu des martyrs, on pourrait dire, des pauvres gens qui n'étaient pas rouges vraiment, qui avaient pris un peu parti parce qu'ils pensaient y trouver donc un certain soulagement, n'est-ce pas, et qui ont été fusillés ou qui ont été massacrés sans autre forme de procès, n'est-ce pas. C'était des véritables génocides pratiquement qui avaient lieu aussi dans tous ces lieux où se crée la reconquista des armées phalangistes. Et finalement, donc, l'extrême droite, donc l'armée, bien entendu, l'a remportée. C'était couru d'avance, on peut dire, bien entendu. L'armée avait quand même la discipline, le matériel, le pouvoir, même si les démocraties, comme on les appelait, ont essayé d'emmener des troupes. Et finalement, le régime, dans les derniers mois, s'est libéralisé avec le président Negrín, qui donc est revenu des excès, n'est-ce pas, de l'extrême gauche, et sous la pression des franco-britanniques en particulier, un gouvernement de centre-gauche a été créé à la fin de la République, mais c'était déjà trop tard, évidemment. Le franquisme l'a emporté. Bon, le franquisme qui a continué à persécuter les chrétiens non catholiques, hein, ça c'est une chose aussi qu'il faut dire, pratiquement jusqu'en 1967. Toute autre religion que la religion catholique était interdite en Espagne, et ceux qui essayaient de la pratiquer finalement étaient emprisonnés, ont pas eu de mise à mort depuis la Révolution, n'est-ce pas? Bien sûr, les protestants étaient assimilés pendant la guerre civile, ils étaient assimilés aux rouges et ils étaient également fusillés. Beaucoup ont été fusillés, enfin les quelques-uns qu'il y avait là-bas, qui étaient le résultat justement des missions, de telle sorte que pendant la guerre civile, on peut dire que pratiquement le petit protestantisme espagnol a été éliminé. Pendant la période franquiste, il s'est reconstitué tant bien que mal, mais alors dans la persécution vraiment. À partir des années 60, ça a été fin des années 50, ça a été un peu plus facile. Pourquoi ? Parce que l'Espagne s'est ouverte au tourisme, d'une part, et d'autre part, à l'influence américaine. L'Espagne aurait voulu rejoindre l'OTAN. Mais les Américains ont refusé aussi longtemps que l'Espagne ne serait pas une démocratie. Il a fallu attendre la mort de Franco pour que l'Espagne entre dans l'OTAN. Mais sans entrer dans l'OTAN, l'Espagne a passé des accords avec les Américains. Notamment, les Américains ont obtenu des bases militaires, aériennes et sous-marines, n'est-ce pas, en Espagne. En contrepartie, les Américains ont exigé une certaine libéralisation du régime. Cette libéralisation est allée en s'accentuant au fur et à mesure que le temps passait, que l'influence américaine se faisait sentir de plus en plus, et puis aussi sous l'influence du tourisme. À partir du moment où l'Espagne s'est ouverte au tourisme, bien entendu, quand les touristes vont dans un pays pour des vacances. Vacances, c'est synonyme de liberté. Si on peut pas faire ce qu'on veut, si on a un policier derrière soi à chaque pas qu'on fait, on retourne plus l'année suivante. Si bien que les pays qui veulent développer le tourisme sont obligés de se libéraliser. Ça a été le cas de la Yougoslavie, justement, dans les mêmes années, finalement. Là aussi, la Yougoslavie est devenue une destination touristique fort prisée, d'autant plus prisée, justement, que les prix étaient plus bas qu'ailleurs. Même chose pour l'Espagne, les Astérix en Hispanie d'ailleurs, et l'Espagne donc aussi a dû se libéraliser sous l'influence du tourisme. Et en 1967, donc un nouvel accord a été passé avec les États-Unis, au terme duquel donc l'État espagnol accepter de reconnaître les protestants sur son sol. Là, il y a eu une tolérance de fait que finalement un accord que l'État espagnol n'a pas très bien suivi d'ailleurs. Les chrétiens locaux n'ont pas vu beaucoup de différence d'après ce qu'ils disent, mais logiquement, bon, c'était. Et on pouvait en tout cas se revendiquer de cela. Notamment, à partir de 1967, la Bible a été autorisée en Espagne, la Bible en espagnol, ce qui n'était pas le cas. C'est incroyable, jusqu'en 1967. Hein. Bon, les dernières années du franquisme, Franco avait perdu contre les plus rien, il était devenu pratiquement gâteux. Donc, il y a eu là une libéralisation beaucoup plus intense, qui a été totale, évidemment, à la mort de Franco et à l'avènement donc de la démocratie avec le roi Juan Carlos. Actuellement, on peut dire que la liberté est totale en Espagne, je dirais presque beaucoup plus grande qu'elle ne l'est dans notre pays. Bien, parlons rapidement aussi maintenant de l'Afrique indépendante. Nous avons parlé d'Éthiopie tout à l'heure. C'est surtout au Zaïre, le Congo ex-belge, que les choses ont été les pires. Là, nous sommes dans les mêmes années, les années de l'indépendance et les années 60. Les Belges avaient dirigé le Congo avec une main de fer, avec donc une cruauté peu commune, ce qui fait que maintenant les Belges qui se posent en champions des droits de l'homme et qui, avec leur fameux tribunal international, feraient bien de balayer chez eux devant leur porte, et on pourrait traduire devant le tribunal qu'ils ont créé bien des leurs, n'est-ce pas, qui se sont comportés au Congo comme de véritables sauvages. Donc, en 1960, le pays n'était pas du tout prêt à l'indépendance. Et l'on sait, on en a déjà parlé, qu'il est tombé dans une terrible guerre civile, au cours de laquelle beaucoup de missionnaires ont été massacrés. Cette guerre a duré jusqu'en 1964. Et là, en particulier, on note la disparition tragique du missionnaire Paul Carlson, qui a été assassiné froidement. après qu'il ait fait l'objet d'une campagne internationale pour essayer de le sauver. L'affaire du Congo a été le signe que l'avenir des églises indépendantes risquait de ne pas être facile. Et ce fut en effet. Au Kenya, par exemple, qui a été l'objet de la révolte des Momos, 10 000 chrétiens ont été mis à mort jusqu'en 1963, date de l'indépendance. Même chose au Cameroun dans les années 60. Au Zimbabwe, jusqu'en 1978 aussi, une persécution a ravagé le pays. Et jusqu'en 1978, vous savez que une station missionnaire de non-violents a été abominablement massacrée à coups de machettes. On a laissé simplement partir une petite fille pour aller avertir les autres que toute la station missionnaire et les familles de chrétiens blancs qui étaient là avaient donc été massacrées. En Angola, le coup d'État d'Obote, qui était un protestant, a donné un temps de répit donc aux chrétiens locaux. Bien que la majorité du pays était, en Angola, en Ouganda, je me trompe. Donc la majorité du pays était catholique et le président Obote, qui était protestant, a inquiété un certain nombre de catholiques. Il ne faut pas l'oublier non plus que les protestants, quand ils ont eu le pouvoir, n'ont pas toujours été des tendres non plus vis-à-vis des catholiques, et qu'il y a eu aussi un certain nombre de catholiques qui ont eu à souffrir de la part des protestants. En 1971, Obote a été renversé par le tristement célèbre Amin Dada, qui lui était musulman. Et là, il a mis tout le monde d'accord en persécutant tout le monde, aussi bien catholique que protestant. En 1979, Obote est revenu au pouvoir après avoir renversé Amin Dada, qui lui-même a été à nouveau donc renversé en 1983. Sous Amin Dada, donc, la situation des chrétiens était dramatique. 300 000 chrétiens ont été massacrés à peu près. La victoire d'Obote sur Amin Dada a provoqué à nouveau des troubles et ça n'avait pas servi de leçon finalement. Et ce dernier s'est mis à nouveau à persécuter les catholiques. Actuellement, la situation est très instable aussi en Ouganda. Parmi les pays qui ont connu des persécutions, il faut citer donc le Congo, la Guinée-Conakry en particulier, et Madagascar qui au début évidemment a connu toute une vague, un martyrologe extrêmement important au moment où l'évangile en 19e siècle a été importé, on l'a vu, mais aussi qui a connu une période rouge où un gouvernement marxiste est arrivé au pouvoir au 20e siècle, au cours duquel aussi les chrétiens ont été inquiétés. La Guinée-Conakry a subi donc une vague de persécution après l'indépendance en 1960, au cours de laquelle, sous la présidence du président Sékou Touré, 50 000 victimes sont à déplorer. On a cherché à détruire tout simplement l'église de fond en comble. En 1972, une junte militaire donc a pris le pouvoir à Madagascar, j'en parlais tout à l'heure, qui était d'obédience maoïste. Le petit livre rouge est devenu la Bible du pays. Et donc, un conflit aigu entre le pouvoir civil et l'Église a été à l'origine de nombreuses persécutions. Même chose au Tchad aussi, où le pouvoir musulman s'est mis à persécuter les chrétiens pendant ces années-là. Et sous le règne du président musulman Hissène Habré, 46 000 chrétiens ont été mis à mort. Même chose aussi au Libéria, en 1990, où 600 luthériens ont été tués après des troubles qui ont éclaté à Monrovia, leur église ayant été incendiée. Dans les anciennes colonies portugaises, après la révolution des œillets de 1973, quand ces colonies sont devenues indépendantes, le christianisme, essentiellement catholique, a été assimilé avec le pouvoir déchu. Et de nombreux problèmes ont éclaté. Déjà en 1962, la révolte avait éclaté dans ces anciennes colonies et les rebelles terrorisaient les chrétiens, les massacraient, détruisaient les églises, incendiaient les églises, etc. En 1975, le Mozambique est tombé sous un régime marxiste extrêmement dur, extrêmement strict, dont 1 million de chrétiens ont été victimes. C'est considérable. En Angola, même chose, où le régime marxiste qui s'est instauré après la révolution des œillets s'est heurté à un régime anti-marxiste. Et là, les chrétiens ont été victimes de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant des années. Le Rwanda et le Burundi ont été aussi victimes de ces guerres tribales qui ont ensanglanté ces régions, comme on le sait, ça a été rappelé récemment par notre ami M. Rouchalmi. Et là, c'est un véritable génocide qui a eu lieu, non pas tant pour des raisons religieuses, d'ailleurs, que pour des raisons ethniques. Mais bien sûr, de nombreux chrétiens aussi ont péri dans ces troubles. Alors voilà, si vous voulez très vite, très brièvement évoquer ce martyrologe du XXe siècle, on voit que ce sont des millions de chrétiens qui ont été mis à mort pour différentes raisons et dans différents coins du monde. Faut-il évoquer peut-être une dernière catégorie de martyrs qu'on ne songerait peut-être pas à considérer comme martyrs, mais qui finalement, quand on y réfléchit bien, le sont. Ce sont des gens qui sont morts dans des tâches humanitaires ou dans des situations à risque dans lesquelles ils s'étaient engagés à cause de leur foi. Par exemple, l'épopée de notre ami Rouchalmi pour l'humanitaire est typique de ce genre de choses. Soit, par exemple, des médecins ou des infirmières qui ont contacté des maladies contagieuses qu'ils soignaient et qui en sont morts, soit des gens comme le Dr Carlson qui ont été assassinés ou qui sont morts dans des troubles, pris qu'ils ont été dans des troubles, pas directement à cause de leur foi obligatoirement, mais parce qu'ils étaient dans des régions à risque, tout simplement, et qu'ils sont morts. Mais s'ils étaient dans ces régions à risque, c'était à cause de leur foi, finalement. Et je pense que, décemment, nous pouvons les considérer comme des martyrs. Ceux qui ont été victimes de terrorisme aussi, hein, le terrorisme, ils étaient là aussi pour des régions comme ça. Peut-on considérer aussi comme victimes de leur foi des gens comme le juge Falcone qui, en Sicile, ont été abattus froidement par la mafia parce qu'ils s'opposaient à elle, c'était en 1993, après, ils avaient été avertis, d'ailleurs, il a été averti par la mafia que s'il ne cessait pas ses activités, il serait mis à mort. Et comme, c'était un catholique engagé, il a poursuivi ses activités malgré tout, puis il a été abattu. Je crois que d'une certaine manière, il est mort pour sa foi, parce qu'il a poursuivi la mafia, parce que, en tant que chrétien, il pensait que ces gens-là devaient être mis à la raison. La même chose en Amérique du Sud aussi, où la lutte contre les mafias colombiennes, etc., de la part d'un certain nombre de chrétiens, juges ou bien magistrats, ou bien entraînent parfois des gens qui perdent la vie, justement, qui sont froidement assassinés pour des choses comme ça. Donc, si vous voulez, voilà en gros ce qu'on peut dire de ces nouveaux martyrs. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?